C'est une figure très aimée des Israéliens qui tire sa révérence politique ce mercredi après 6 ans comme président de l'État. Reuven Rivlin passe actuellement le relais à Yitzhak Herzog. L'occasion de revenir avec vous, Gérard Benamou, sur le rôle du président israélien.
Oui, Rudy, il faut dire que de temps en temps, les médias israéliens posent la question « Pourquoi avons-nous besoin d'un président de l'État ?» Nous tenterons de répondre à cette question avec notre invitée, Madame Colette Avital, ancienne diplomate, ancienne députée travailliste et candidate à la présidence en 2007. Les plus critiques rappellent que, contrairement à des pays comme les États-Unis et le Mexique, où le président est directement élu par le peuple et sert de pouvoir exécutif, Israël a un système parlementaire et le président n'est pour l'essentiel qu'une représentation dotée de peu de pouvoir. Pourtant, lorsqu'on observe le vécu du mandat de Reuven Rivlin, on peut trouver une réponse très honorable à cette question. Et même être impressionné par les missions remplies et la façon particulièrement humaine et souvent même pleine de compassion avec laquelle le président s'est acquitté de ses responsabilités. Il a su traiter certains sujets particulièrement délicats qui exigeaient un véritable courage moral. Pour rappel, dans 2 décisions de demande de grâce séparées et non liées, notamment dans le cas de Yonatan Elou, qui a été reconnu coupable du meurtre de Yaron Elin à Natania en 2010, Rivlin a pris en considération le fait que Elou ait affirmé avoir été violé 2 fois par Elin et qu'il craignait d'être violé 1/3 fois. La revendication de viol explique aussi pourquoi Elou a mutilé l'organe sexuel d'Elin après l'avoir assassiné. Rivlin lui a accordé sa grâce. En revanche, Rivlin a rejeté la demande de grâce faite par le tireur à Hébron, Elor Azaria, en faisant valoir que le tribunal militaire qu'il a déclaré coupable avait déjà pris en considération l'excellent dossier militaire d'Azaria. Le tribunal l'a également déclaré coupable d'homicide involontaire et non de meurtre, en dépit des soupçons que les tirs d'Azaria étaient prémédités et n'était pas motivé par le fait que lui et d'autres personnes aient été menacés par le terroriste frappé d'incapacité. Le président, de façon tout à fait indépendante, a rappelé, malgré les pressions au sein de son camp politique à droite, que ce n'est pas le rôle du soldat de se saisir de la loi. Par ailleurs, bien qu'on affirme que le président n'a aucun rôle politique à jouer, Reuven Rivlin a été sollicité de façon tout à fait exceptionnelle 5 fois en un seul septennat en liaison avec des élections consécutives législatives. Le président s'est également toujours tenu strictement dans le cadre du protocole et de la répartition des pouvoirs. Il a pu toutefois aussi servir de relais diplomatique à certaines périodes sensibles, avec le roi de Jordanie notamment, ou encore avec le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mais à chaque fois avec l'aval du chef du gouvernement israélien, en l'occurrence Benjamin Netanyahou, bien que les relations entre les deux hommes aient été connues pour être tendues. Toutefois, Reuven Rivlin ne s'est jamais interdit de participer au débat public lorsqu'il a estimé que c'était de son devoir, sans s'installer pourtant dans la neutralité, et il a parfois provoqué des critiques tendues dans son camp politique d'origine, le Likoud. En 2015, le 10e président israélien a, lors d'un discours, fait clairement état de la division profonde de la société israélienne, retranchée en 4 tribus, les laïcs, les religieux, les ultra-orthodoxes et les arabes, chaque camp avec son propre système éducatif et ses propres valeurs. Le président mettait ainsi la société israélienne en face de ses défis, une attitude certainement illustrée par cette citation de Reuven Rivlin, inscrite sous le buste sculpté qui lui a été consacré et qui a été installé dans l'avenue des présidents à la résidence présidentielle. Sous ce buste érigé aux côtés de celui des prédécesseurs de Rivlin, figure cette petite phrase de Rivlin : « Si on ne sait pas écouter, on ne sait pas apprendre. Si on ne sait pas apprendre, on ne sait pas réparer. » Bonjour Madame Colette Avital.
Bonjour Colette Avital. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ.
Oui, je vous écoute.
Alors, il y a un petit décalage, je pense, mais il n'y aura pas de souci pour s'entendre. Alors, on parle de titre honorifique hein, quand on parle du président de l'État, mais on a quand même ce sentiment que Reuven Rivlin a donné plus d'épaisseur à la fonction lors de son mandat, tout comme l'avait fait d'ailleurs avant lui Shimon Peres.
Oui, tout à fait, mais je crois qu'il faut vraiment dire que préciser qu'il est chef d'État, mais sans pouvoir réel politique. Du moins, c'est ce qui est inscrit. Et mais je crois que dans le cas de Reuven Rivlin, et tenant compte de la période que nous très mouvementé que nous avons parcouru ces dernières 7 années. Je crois que Gérard Benamou a bien brossé le tableau. Il a dû utiliser, si vous voulez, son poids moral. Alors, nous savons que Reuven Rivlin appartenait à la droite. Nous savions exactement quelles étaient ses opinions, quels étaient son point de vue, qu'il rejetait la solution des deux États, qu'il était pour l'annexion des territoires. Mais il n'a pas utilisé ses pouvoirs, il n'a pas utilisé aucun cadre pour promouvoir ses idées ou ses points de vue ou pour être l'avocat d'une certaine annexion. Donc, je crois que sur les dossiers les plus politiques, si vous voulez dire, et les plus délicats, il s'est tenu à l'écart et il a essayé d'être aussi impartial que possible. Et je crois que, bon, je l'ai bien connu au cours de notre mandat, le sien et le mien, à la Knesset. Nous avons été tous les deux membres de la Knesset pendant la même période. Nous avons travaillé ensemble sur beaucoup de problèmes. Et je dois vous dire que même lorsqu'il était le président de la Knesset, il a fait preuve d'une grande impartialité. Il a par exemple, été extrêmement ouvert à la population arabe et à ses représentants à la Knesset, avec lesquels il a maintenu des relations très correctes, très, très sereines, très coopératives. Et je crois que ce même esprit, et je crois que vous avez, Gérard a parlé de compassion, ce même esprit a prévalu aussi pendant son mandat de 7 ans. Je dois peut-être aussi dire quelque chose sur son style. Il n'a jamais été pompeux, il n'a jamais montré aucune solennité, où il ne s'est jamais comporté avec suffisance, mais avec simplicité, avec popularité, si vous voulez. Il a compris et il a vraiment tout fait pour rester le président de tout le peuple. Sa maison a été ouverte à tout le peuple. Il a maintenu des relations. Et je crois du fait que nous avons parlé, ou vous avez parlé, de ce fameux discours des 4 tribus, c'est une chose qui lui a importé. Il s'est rendu compte à quel point la société israélienne est divisée, à quel point il est nécessaire d'ouvrir un dialogue et de créer une certaine unité. Elle est divisée comme elle ne l'était pas auparavant. Et je crois que son rôle, moi, ce que je retiens le plus, ce n'est pas seulement son courage lorsqu'il a décidé de gracier ou de non gracier certaines personnes, mais je crois que son apport le plus important, c'est justement de faire à ce que la classe politique en Israël, et pas seulement elle, la population, les organisations, se rendent compte à quel point notre société est divisée et a besoin d'un dialogue et d'une certaine réparation, comme il l'a dit lui-même.
Gérard Benamou.
Alors, Madame Avital, est-ce qu'on peut dire que le président Rivlin n'a pas été un président moins déterminant que ne l'a été Shimon Peres, tout en agissant sur un tout autre terrain?
Je crois que le style a été très différent. Je crois que Shimon Peres a été et est resté une grande figure politique et une grande figure internationale. Je sais que partout il a été, même lorsqu'il était dans l'opposition, il a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme dans tous les pays et certainement il a fait figure déterminante dans les relations internationales d'Israël alors que nous avons parcouru des moments difficiles avec certaines crises, avec les guerres, avec tout ce qui s'est produit en Israël. Mais je crois qu'il a été, et malgré le fait qu'il a essayé de se tenir à l'écart de la politique, il a quand même travaillé, si vous voulez, discrètement dans tous les domaines politiques, certainement dans les relations extérieures d'Israël. Et je crois qu'en ça, il y a une différence. Le style a été très différent. Si vous voulez, par exemple, Shimon Peres, pendant son terme, il a organisé de temps à autre ce qui s'appelait le congrès du président. Il a fait venir les personnalités les plus illustres du monde. Rivlin s'est comporté d'une manière beaucoup plus modeste et il a été beaucoup plus le président du peuple. Il a écouté le peuple, il y a eu énormément de sympathie, si vous voulez, de compassion. Il s'est rendu chez toutes les familles qui ont subi le deuil, soit pour des raisons militaires ou soit pour des raisons de terrorisme. C'est une personne qui est beaucoup plus émotive, qui a montré beaucoup plus d'émotion, qui s'est comportée aussi avec une grande dignité, mais avec une grande simplicité. Ce qui n'a pas toujours été le cas pour Pérez, qui était une personne, si vous voulez, beaucoup plus solennelle d'ailleurs entouré toujours, etc. Donc les styles ont été très différents et le comportement était très différent. Et je dirais que chacun d'eux a joué un rôle prédominant dans un autre domaine. Celui de Rivlin, c'est d'essayer d'unir la population en Israël. C'est celui d'avoir toujours le cœur ouvert. Je crois que Pérez a été un grand personnage, surtout sur la scène internationale. Et là, il a rendu un très grand service à Israël dans ce domaine.
Colette Avital, c'est donc Yitzhak Herzog qui, 28 ans après son père, prête serment aujourd'hui. Qu'attendre de cette présidence, donc un président plus jeune, issu des rangs de la gauche, ancien directeur de l'agence juive. Que dessine-t-il pour les 6 années à venir?
Écoutez, si je peux caractériser Herzog, c'est quelqu'un qui a vraiment franchi toutes les étapes. Parlementaire, ministre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui apporte avec lui énormément d'expérience aussi au niveau politique qu'au niveau d'organisation. C'est quelqu'un qui travaille jour et nuit, qui est toujours bien informé, qui connaît tous les dossiers, qui étudie tous les dossiers, et donc c'est un autre style complètement. C'est quelqu'un de très efficace, c'est quelqu'un qui est ouvert et qui est ouvert au changement et qui donne énormément de poids à la diaspora, au peuple juif à l'étranger. C'est si vous voulez, du fait qu'il a travaillé dans ce domaine et qu'il a été aussi le président de l'agence juive, ce sera probablement l'un des dossiers dont il va traiter. Et je sais que, aujourd'hui, et pendant ces dernières années, il y a eu des confrontations, des schismes entre nous et les Juifs des États-Unis. Je sais que c'est un dossier qui lui tient à cœur et qu'il va travailler. Maintenant, il est aussi quelqu'un, c'est vrai qu'il a été membre du Parti travailliste, mais si vous voulez, dans l'aile plutôt droite du Parti travailliste, pas dans l'aile. Le Parti travailliste, au cours des années, a été, si vous voulez, comme un supermarché. Il y a eu une aile de gauche, une aile de droite. C'est quelqu'un qui a toujours su comment apporter le compromis. Et ça, je m'en souviens très, très bien à chaque crise qu'il y a eu dans la Knesset. C'est lui qui a été chargé par soit le Premier ministre, soit le président de notre groupe parlementaire, d'apporter une solution, d'apporter un compromis. Donc c'est quelqu'un qui saura mener, si vous voulez, son bateau d'une manière très équitable, et qui sera très ouvert et qui, probablement, connaissant très bien l'étranger, connaissant très bien des chefs d'État, à travers ses différentes fonctions, pourra, je crois, être un très, très bon président pour l'État d'Israël. Et je crois que lui aussi va tout faire pour rester impartial, pour ne pas donner à son mandat un poids politique.
Merci Colette Avital, ancienne diplomate. Et merci à vous, Gérard Benhamou, pour ce dossier.
Merci Madame Colette Avital. Merci à tous.
Merci à vous.